France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso.
Bonjour. Au micro, Hélène Lortie, libre penseuse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Gousseau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée, pour parler de l'indemnisation par l'Église des victimes d'abus sexuels. L'affaire de l'établissement privé d'enseignement catholique Bétarame, qui défraie la chronique depuis des semaines et au centre de laquelle se trouve l'actuel Premier ministre, ouvre un nouveau volet du dossier de pédocriminalité au sein de l'Église romaine, tentaculaire tant par son caractère systémique que sa dimension mondiale. Dans de nombreux pays, des prêtres ou des laïcs travaillant sous leur responsabilité ont commis des agressions sexuelles sur mineurs, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Australie et même en Espagne, la très catholique. En France, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, a publié en octobre 2021 un rapport estimant à 330 000 le nombre de mineurs victimes de tels abus, de 1950 à 2020. Pouvez-vous, Dominique, nous dire comment la libre pensée s'est emparée de ce dossier ?
D'abord, il est utile de rappeler que la lutte contre les abus sexuels sur mineurs constitue depuis 15 ans l'un des trois axes d'action des associations dont la libre pensée française, regroupée dans l'Association internationale de la libre pensée, fondée en 2011 à Oslo. Ainsi, notre ami britannique Keith Porteous-Wood de la National Secular Society a beaucoup travaillé cette question, notamment dans le cadre des instances de l'Organisation des Nations Unies, en particulier du Comité des droits de l'enfant. Il a d'ailleurs interpellé les parlementaires français en juin 2023 sur le fondement des observations de l'ONU. Éclairé par l'action de l'association de victimes La Parole Libérée, formée par les personnes ayant subi dans leur enfance les outrages du vicaire de la paroisse de Sainte-Foy-lès-Lyon, Bernard Prénat, finalement condamné à 5 ans de prison en dépit des manœuvres de l'archevêché de Lyon pour le soumettre à la justice, bénéficiant aussi du concours précieux et courageux du prêtre Pierre Vignon, qui a beaucoup fait pour mettre au jour cette infamie, la Fédération nationale de la libre pensée, en ce qui la concerne, a d'abord dénoncé les actes de pédocriminalité commis par de nombreux membres du clergé catholique. Puis, lors de son congrès de Voiron, d'août 2021, et avant même que les conclusions des travaux de la CIAZ fussent connues, elle a décidé d'aller plus loin et de démontrer que l'Église devait non seulement assumer ses responsabilités vis-à-vis des victimes et en les indemnisant, mais pouvait le faire compte tenu de son patrimoine mobilier et immobilier. Conformément à cette résolution, la commission droit et laïcité de la Fédération nationale de la libre pensée a établi que l'Église doit payer et peut payer selon une formule résumant le point de vue des libres penseurs.
Alors, selon quelle méthode la Fédération nationale de la libre pensée a-t-elle travaillé et à quelle conclusion est-elle parvenue ?
Alors, la méthode est relativement simple. D'une part, au-delà de l'aspect moral de la question, elle a examiné son volet juridique. Sans entrer dans les détails, lorsque le préposé d'une association commet une faute personnelle dans le cadre de l'action qu'elle conduit, celle-ci est responsable sans faute du préjudice infligé à un ou plusieurs tiers par ce préposé. C'est ce que les juristes appellent la responsabilité du fait d'autrui, qui vise à préserver la solvabilité d'un auteur à l'égard de la victime sur le plan civil et à laquelle n'échappent pas les associations diocésaines naturellement. D'autre part, la FNLP a consulté les comptes 2018 et 2019 des diocèses de manière à écarter toute polémique éventuelle sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur les exercices suivants, publié en ligne, en application de l'obligation légale instituée par une loi du 23 juillet 1987 à laquelle sont soumises ces associations diocésaines. Notons d'ailleurs que notre association est intervenue à plusieurs reprises pour contraindre certains diocèses à respecter cette obligation légale. En définitive, la Libre Pensée a pu étudier 93 comptes sur 104, soit environ 90% de l'ensemble.
Alors, quelle conclusion se dégage de cet examen ?
Alors, en premier lieu, l'Église de France connaît des difficultés financières qu'il serait stupide de nier, mais bénéficie de dispositions légales permettant de les surmonter. Globalement, les 93 diocèses ont enregistré en 2019 une perte globale d'exploitation de 146 millions d'euros, soit 16% du total de leurs charges de fonctionnement. Les dons manuels des fidèles, casuels, deniers de l'Église, quêtes, n'ont représenté que 58% des dépenses courantes. Ce constat traduit la désaffection dont souffre l'Église. Toutefois, l'étude plus approfondie des exercices 2018 et 2019 d'un échantillon de 26 diocèses, dont les dépenses atteignent la moitié environ de l'ensemble, montre qu'elle parvient à couvrir et bien au-delà de ce qui est nécessaire, cette perte d'exploitation à l'aide des produits financiers, des placements qu'elle opère et surtout des recettes exceptionnelles dont elle bénéficie, pour l'essentiel issues des dons et legs défiscalisés. La modification de la loi du 9 décembre 1905, introduite par le régime de Vichy le 25 décembre 1942 et validée par la suite, lui procure des ressources encore abondantes. Pour une perte d'exploitation cumulée de près de 122 millions d'euros enregistrés par ces 26 diocèses en 2018 et 2019, les ressources provenant des placements et des libéralités ont atteint environ 174 millions, auxquels s'est ajoutée une recette exceptionnelle de l'ordre de 30 millions d'euros provenant de la vente d'un terrain par le diocèse de Paris. En définitive, un excédent net de comptable de 82 millions d'euros a accru les fonds propres de ces 26 diocèses. Ce constat est bien entendu transposable à l'ensemble des 104 entités. En second lieu, l'examen des 93 bilans arrêtés au 31 décembre 2019 fait apparaître que les diocèses de l'Église romaine disposaient en France d'un patrimoine de l'ordre de 8 milliards d'euros. Pour avoir une idée exacte de ces richesses, il faudrait y ajouter la fortune des congrégations, malheureusement impossible à mesurer puisque ces dernières, contrairement aux diocèses, ne sont pas tenues de publier leurs comptes.
Alors, dans ces conditions, à combien seraient estimés les différents portefeuilles de l'Église ?
Alors, son portefeuille de valeurs mobilières de placement, ce qu'on appelle les VNP, était comptabilisé à hauteur de 1,137 milliard d'euros, somme qui n'incluait pas les éventuelles plus-values latentes de ces placements. À cette somme s'ajoutaient les dépôts sur les comptes courants de l'ordre de 480 millions d'euros. Dans la mesure où les valeurs mobilières de placement de l'Église, qui agit prudemment, sont pour l'essentiel des titres négociables à très court terme, sa trésorerie globale pour 93 diocèses ressortait à plus de 1,6 milliard d'euros, soit 22 mois d'avance sur les charges d'exploitation d'une année. Quant au fonds de roulement des diocèses, il atteignait plus d'un milliard d'euros à la fin de l'année 2019. En outre, le montant brut en valeur historique d'achat de son patrimoine immobilier atteignait près de 3 milliards d'euros. Fondée sur une simple convention comptable, cette somme n'a pas de signification économique. Prenons un exemple. Un bien immobilier acheté 1 million de francs en 1991 a été pris en compte pour 152 439 euros dans le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et l'est toujours au 31 décembre 2019. Or, compte tenu de l'érosion monétaire, cette somme équivaut aujourd'hui à plus de 260 000 euros. De surcroît, sa valeur de marché est bien supérieure, peut-être pas loin de 400 000. Il a donc fallu actualiser la valeur du patrimoine immobilier de 3 milliards. À cette fin, nous avons utilisé l'évolution de 2000 à 2019 de l'indice trimestriel du prix des logements neufs et anciens France entière, construit par l'INSEE en 2015 et qui présente l'avantage de synthétiser toutes les situations des segments nombreux du marché immobilier pour l'habitation. L'actualisation a multiplié par un facteur 2,36 le montant des 3 milliards, si bien que nous estimons globalement et prudemment d'ailleurs le patrimoine immobilier de l'Église de France à plus de 6,6 milliards d'euros. Il est probable que la valeur réelle de marché, même après la baisse des prix enregistrés depuis lors, soit supérieure à cette somme compte tenu des joyaux que possède l'Église romaine.
Eh bien, Dominique, ces chiffres sont très parlants. Vous évoquiez l'examen approfondi de la comptabilité de 26 diocèses. Il me semble que parallèlement, la Fédération nationale de la libre pensée a procédé de manière totalement empirique à une sorte de voyage au pays des merveilles, entre guillemets, pour reprendre l'un des sous-titres de l'ouvrage qui consigne l'ensemble des constats de l'enquête conduite par la libre pensée au travers des propriétés foncières et immobilières de ces diocèses. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en quelques mots ?
Nous ne retiendrons que quelques exemples illustrant ce voyage au pays des merveilles. Comme Alice, nous tombons dans un terrier sans fin qui ouvre vers un monde inconnu dont les dimensions étonnent. Le diocèse de Paris, par exemple, et les nombreuses sociétés civiles immobilières qu'il contrôle possèdent 737 immeubles d'une surface totale de 56 000 m² et d'une valeur de marché de l'ordre de 596 millions d'euros, selon nous, en 2019. Lorsqu'on y ajoute celle des biens possédés à Londres, Genève et Lausanne, ce montant atteignait 795 millions d'euros à la même date. Une somme proche de celle avancée par la cellule d'investigation de Radio France, qui l'estimait alors comprise entre, citation, 750 et 835 millions d'euros. Parmi les joyaux qui composent ce patrimoine, le moindre n'est pas le palais de l'archevêque, un hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement, provenant d'un legs consenti par une riche paroissienne au début du XXe siècle et dont André XXIII avait quelques scrupules à habiter, dit-on. Le collège des Bernardins, restauré à grands frais avec l'aide de la ville de Paris, le siège des services diocésains près de la cathédrale, le monastère de la Visitation, cédé gratuitement au diocèse par une congrégation de nonnes et comportant un hôtel particulier édifié par la famille Clermont-Tonnerre en 1775, ou l'immeuble qu'occupe comme locataire le siège de la société Free, rue de la Ville de l'Évêque, en sont de beaux exemples.
Dominique, pour finir, pouvez-vous nous indiquer les bonnes raisons qui justifient la lecture de l'ouvrage fort passionnant que vous avez dirigé et qui dresse les constats dont nous venons de parler ?
La juste indemnisation du préjudice subi par les victimes constitue la seule raison de la publication de cet ouvrage, même si l'argent ne suffit pas à réparer totalement une vie brisée. Peu avant sa parution, nous apprenions que l'Église catholique des États-Unis, par exemple, avait versé 87,5 millions de dollars à 300 personnes, soit 292 000 dollars en moyenne. Le dollar et l'euro présentaient alors une valeur quasiment identique. Le plafond des sommes qu'entendent allouer aux victimes la Commission de reconnaissance et de réparation, la CRR, pour les congrégations régulières, et l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, l'INIRR, pour les diocèses, s'élève à 60 000 euros, soit 5 fois moins que ce à quoi l'Église américaine a été contrainte. Cette décision est indécente, au regard notamment d'un barème individualisé d'indemnisation sur lequel la libre pensée s'est fondée. Ainsi, un enfant de 11 ans, atteint de séquelles post-traumatiques à l'âge adulte, pourrait percevoir à minima 162 000 euros. Le Fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs, le CELAM, créé en mars 2021 par la Conférence des évêques de France et agréé par l'État le 13 juillet 2021, n'a été doté pour l'instant que de 20 millions d'euros. Selon les dernières informations rendues publiques par le CELAM, celui-ci avait dépensé 17 millions d'euros en faveur de 500 personnes au 1er février 2024, soit 24 000 euros par bénéficiaire en moyenne. Sur la base des indemnités dérisoires accordées par le juge pénal en faveur de la partie civile, soit une somme en moyenne comparable à celle allouée par la CRR et l'INIRR, et d'une prévision d'une demande de réparation d'une victime sur 10, la somme globale à mobiliser serait de l'ordre de 800 millions à 1 milliard d'euros. Nous en sommes donc très loin. Pour finir, nous voudrions insister sur deux points. D'une part, l'avarice de l'Église de France ressort clairement du documentaire qu'a réalisé Julie Lotz, finaliste du prix Albert Londres et lauréate du prix Fingras pour son travail complément d'enquête en janvier 2022. Par exemple, parvenue détruite à l'âge adulte, une jeune fille violée pendant des années par trois prêtres différents s'est vue offrir par l'instance nationale de réparation la prise en charge à vie des frais imputables aux soins vétérinaires de son chien. D'autre part, nous engageons ceux de nos éditeurs qui ne l'ont pas encore fait à lire notre ouvrage « Un trésor pour laver une infamie, l'Église doit payer, l'Église peut payer » avant de prendre connaissance des travaux du prochain congrès mondial de l'Association internationale de la libre pensée qui sera consacré aux abus sexuels sur mineurs dans le monde. Il se tiendra en octobre 2025 à Grenoble et s'achèvera par une réunion publique à Lyon organisé par les libres penseurs du département du Rhône et les associations de victimes.
Notre émission touche à sa fin. Je remercie bien sûr notre invité Dominique Gousseau, ainsi que Jean-Christophe Francis à la réalisation, Olivier Arnay à la technique et Claire Poincillon à la production. Bon dimanche à vous tous et toutes.